25. Élise. En rentrant du travail avec Édouard, je croise Madame Di Francesco sur le parking, un panier dans une main, la laisse de son caniche dans l'autre. Elle lève le nez et contemple le ciel. Mais le parterre de glands autour d'elle ne permet aucun doute. J'ai interrompu sa récolte. Je la salue brièvement. Elle me répond de la même manière, comme d'habitude. Je continue mon chemin vers l'immeuble lorsque ma récente prise de conscience vient me chatouiller. Je dois renifler mon prochain. Je fais demi-tour et m'approche d'elle. « Vous vous promenez ?»«
Non ?»
rétorque-t-elle sur la défensive. Je me fais violence pour ne pas abandonner mes projets de socialisation et ose une nouvelle tentative.
« Il fait chaud, hein ?»
Elle me regarde comme si j'avais trois nez, en silence. J'ai trouvé une personne moins sociable que moi. Je m'apprête à renoncer quand Édouard saute sur son chien, qui ne réagit pas. Madame Di Francesco le toise sans sourciller.
« Il est rigolo. Comment s'appelle-t-il ? »
Je n'avais jamais remarqué son accent. Les R roulent sur sa langue. « Édouard !» Elle hoche la tête d'un air entendu.
« Cela lui va parfaitement. C'était le prénom de mon défunt mari, Eduardo. »«
Je suis désolée. »«
Pas moi. Il ressemblait à votre chien. »
Je m'esclaffe, mais me ressaisis vite. Elle est sérieuse. « Et le vôtre, il s'appelle comment ?» je demande.
« Apple. » »«
Vous aimez les animaux ?»«
Pas tellement. Mais je les tolère, contrairement aux humains. »
Elle évite mon regard, mais le message est clair. Je lui souhaite une bonne soirée et j'enjoins à Édouard de me suivre. Assis au pied de la vieille dame, à côté de son nouvel ami, il m'ignore ostensiblement. Je tire légèrement sur la laisse, aucune réaction. Je dois presque le traîner jusqu'à l'entrée. J'ai réussi l'exploit de me faire détester par un chien qui aime tout le monde. L'ascenseur va se refermer lorsque Madame Moussa s'y engouffre. Elle porte sa plus jeune fille en écharpe et tient la main à la plus âgée.
« Maman, il faut que j'apporte des rouleaux de papier cul à l'école, mais je peux pas te dire pourquoi, c'est une surprise pour un cadeau pour toi. »
La mère ouvre des yeux ronds.
« On dit du papier toilette, Malia. »«
Mais papa, il dit du papier cul. »
L'arrivée au deuxième étage me prive de la fin de leur conversation. Elles sortent de l'ascenseur et me laissent avec mes souvenirs. Charline avait 3 ans. Elle venait de border sa poupée, Tina, et de lui chanter une berceuse. Tina s'était assoupie. Charline avait quitté la chambre sur la pointe des pieds pour ne pas la réveiller et m'avait rejointe dans le salon, fière d'elle. Elle avait dressé son index devant sa bouche et chuchoté.
« Chut, maman, elle dort, la petite pute !»
J'avais failli m'étouffer avant de comprendre qu'elle avait voulu dire « la petite puce ». J'entends encore sa voix aiguë. Elle était tellement mignonne. Je pénètre dans l'appartement, Édouard file à sa gamelle. La solitude m'accueille comme une vieille amie. Elle m'enlace. Elle m'étreint. Je retire mes chaussures et lève les yeux. Face à moi, la chambre de Thomas s'exhibe nue. Alors, en attendant de ne plus en souffrir, je fais ce que je me retiens de faire depuis son départ. Je ferme sa porte. 26. Lily.
J'ai fermé la porte de ta chambre. Ton absence y était trop présente. 10 minutes plus tard, elle était de nouveau ouverte. Ta grand-mère m'a expliqué qu'il fallait laisser l'air circuler. Elle a un avis sur tout, tu verras, et il l'emporte toujours sur celui des autres. Je ne reconnais plus notre maison depuis qu'ils s'y sont installés. Elle a réorganisé l'aménagement des tiroirs de la cuisine, pas assez pratique, déplacé les plantes, pas assez de soleil, sorti la gamelle de Milou sur la terrasse, pas assez hygiénique, nettoyé chaque pièce de fond en comble, pas assez propre. Elle m'a narré ses exploits avec fierté, puis elle m'a dévisagée avec insistance en attendant que je la remercie. Ma tête se demandait si ma belle-mère allait aussi m'apprendre à utiliser du papier toilette, mais ma bouche a dit merci. Je n'y peux rien. J'exècre les conflits. Plus exactement, je déteste faire de la peine, m'être mal à l'aise. Je suis un bon petit soldat, bien droit, prêt à tout pour ne pas briser l'harmonie du rang. Quand on me tend un objet pour que je le tienne, je dis merci. Quand je bouscule une table, je dis pardon. Quand quelqu'un marche face à moi sur le même trottoir, c'est moi qui me décale. Quand une personne raconte une blague à laquelle personne ne rit, je ris. Quand le serveur me demande si son plat immonde m'a plu, je commande du rab. Quand la coiffeuse me fait ressembler à un cocker mouillé, je laisse un pourboire. Quand quelqu'un me coupe la route en voiture, je l'insulte, mais en silence et en souriant. Quand on m'appelle pour me vendre une véranda, je remercie le ciel de ne pas être propriétaire. J'ai conscience que s'affirmer ne veut pas dire blesser. J'y travaille, et j'ai bon espoir de réussir un jour à me faire entendre sans culpabiliser. J'étais une enfant au caractère bien trempé et à la répartie cinglante. Et puis, il a fallu se faire petite, ne pas en rajouter, ne pas faire de vagues. Il y en avait assez. Faire plaisir, provoquer des sourires pour contrecarrer le chagrin, lisser mes contours, adoucir mes contrastes, me dissoudre dans la tranquillité, m'oublier au profit des autres. Ce comportement a peu à peu imprégné mon caractère, jusqu'à devenir une seconde peau. Je ne faisais plus, j'étais. Je pensais à tout ça tandis que tu dormais contre mon ventre. Ces heures, assises face à la fenêtre, sont propices à la réflexion. Il faut dire que le paysage n'encourage pas l'évasion. Toute la journée, j'ai sous les yeux le bâtiment principal du centre hospitalier. Un immense mur blanc parsemé de fenêtres derrière lesquelles des vies sont entre parenthèses. Parfois, pour ajouter au glauque, l'hélicoptère des secours se pose sur le toit dans un bourdonnement qui me file la chair de poule. Alors, il m'arrive de m'envoler mentalement, d'imaginer une autre vue. Et celle qui revient le plus souvent me ramène en enfance. Chaque été, tes grands-parents, mes parents, louaient un appartement au dernier étage d'un vieil immeuble de Biarritz. C'était minuscule. Ton oncle Valentin, mon frère, et moi dormions dans le même lit. Mon père et ma mère sur le canapé. Il fallait une maîtrise en Tetris pour faire entrer toutes nos affaires dans le placard. Mais le paysage depuis l'unique fenêtre valait le coup. Elle était en hauteur. Je devais me percher dans les bras de ton papy pour y accéder. Je ne parviendrai pas à te décrire ce qu'on voyait. D'abord parce qu'il n'y a pas de mots pour dépeindre la splendeur, mais surtout parce que les souvenirs d'enfance sont toujours un peu plus beaux que la réalité. C'était un tableau à chaque fois différent. Les vagues, la houle, l'écume, les nuages, les couchers de soleil, les goélands, les surfeurs. Ta grand-mère pouvait passer des heures à contempler ce spectacle, et moi, je passais des heures à admirer son sourire. On n'y est jamais retourné après l'été de mes 13 ans. Je suis allée déjeuner dans la salle des familles. Je n'étais pas la seule à avoir eu cette idée. La maman des triplés a répondu à mon salut. Celle qui ne quitte jamais le service n'a pas levé la tête de son assiette. J'ai englouti la salade que j'avais préparée à la maison et j'étais en train de me servir un café quand le papa du bébé en incubateur est entré dans la pièce. Il paraissait perdu, comme à chaque fois que je le croise. Il jetait des coups d'œil autour de lui. Il ne semblait pas nous avoir vus. La maman des triplés lui a demandé s'il cherchait quelque chose. Il s'est laissé tomber sur le canapé. Son menton tremblait. Il fournissait visiblement beaucoup d'efforts pour ne pas s'effondrer. Il n'en pas suffi. Les larmes ont dégringolé sur ses joues, d'abord en silence, puis de gros sanglots l'ont secoué. La maman des triplés s'est précipitée vers lui. Elle s'est assise à ses côtés et lui a tapoté le dos. L'autre maman s'est levée et sans un mot lui a tendu un yaourt. Quand elle m'a lancé son regard noir, j'ai pris conscience que j'observais la scène, figée, telle une tête de cerf empaillée. Alors je suis allée lui donner mon café. 5 minutes plus tard, il nous racontait son histoire. Les phrases se jetaient hors de sa bouche dans le désordre, comme une urgence. « C'est notre 2e enfant. Il devait naître dans 3 mois. On n'a rien préparé. Il n'a même pas de chambre. Il a failli ne pas s'en sortir. Il a passé 5 jours en réa. Il s'appelle Milo. » On l'aimait bien ce prénom, surtout Alice. J'aurais préféré Sacha. J'ai pas osé dire la vérité à ma grande. Elle est chez sa grand-mère. Je lui ai raconté que maman était fatiguée, qu'elle avait besoin de se reposer. J'étais au boulot quand ils m'ont appelé. J'ai roulé comme un fou. Apparemment, Alice était à la boulangerie lorsqu'elle est tombée, éclampsie. Elle avait la tension haute depuis quelques semaines, mais elle était surveillée. Elle s'inquiétait, elle n'arrêtait pas d'en parler, parfois ça m'agaçait. Si j'avais su... Elle est en réanimation dans le bâtiment d'en face. Je passe mes matinées avec ma femme, mes après-midi avec mon fils et mes soirées avec ma fille. Cette nuit, elle s'est réveillée. Elle va bien? Elle est vivante? Ses sanglots ont repris, entrecoupés de rires nerveux.
Alice est vivante? Elle va vivre? Je commence juste à réaliser.
Aucune de nous n'a parlé. La maman des triplés a continué de lui tapoter le dos. La maman au regard noir lui a fait signe de manger le yaourt. Et je lui ai servi un autre café.